Alors donc, nous continuons cette semaine notre série sur le gaz de schiste. Aujourd'hui, on parle de la méthode d'extraction de ce gaz. Alors, comme on vous l'expliquait la semaine dernière, le schiste ou le shale, les deux mots existent là, si vous préférez le shale, donc est très peu perméable. C'est une source non conventionnelle. Il a fallu beaucoup d'ingéniosité pour extraire le gaz qui s'y trouve. Alors, Yannick Tremblay, vous allez nous dire comment on s'y prend.
On emploie une technique dite d'hydrofracturation. C'est le cas de le dire, il y a vraiment de l'eau dans le gaz, oui. Pour reprendre votre expression. On injecte donc de l'eau à 95%, du sable pour 4% et des produits chimiques pressurisés, ça compte pour 1%, dans un puits qui est à la fois vertical et horizontal. On augmente la pression et ça fait éclater le schiste, si vous voulez. Ça crée des failles. Et donc, le gaz, il y a des poches de gaz qui s'écoulent par ces failles-là. C'est une technique qui est connue depuis longtemps, mais qui est appliquée depuis quelques années seulement pour l'extraction du gaz de schiste. Et ça, c'est grâce à la ténacité d'un Américain du Texas qui s'entêtait contre tout le monde ou à peu près à dire que ce gaz pouvait être prélevé. J'en ai discuté avec le pétrophysicien Paul Glover qui enseigne au département de géologie de l'Université Laval.
La plupart des technologies qu'on parle, ce n'est pas des nouvelles technologies, mais ce sont des nouvelles technologies appliquées sur l'extraction de gaz de schiste. Par exemple, depuis 60 années, on a utilisé un type d'hydrofracturation dans les puits de l'eau pour améliorer les puits de l'eau avec pas de problème dans tout Canada. Mais l'application de même technologie dans les gaz de schiste a une profondeur beaucoup plus grande. C'est un peu différent. C'est nécessaire d'avoir les pompes et les méthodes, les procédures, si vous voulez, qui sont beaucoup plus puissantes pour faire ça. Et donc, après les expériences initiales de George Michel, depuis 1981, il a développé, en fait, une technologie existante, mais avec une application pour le gaz de schiste.
Et parlons-en justement de M. Mitchell, parce que sa persévérance dans ce dossier-là est exemplaire. Racontez-nous comment ça s'est passé.
Oui, certainement. George Michel est une géologue. Il a commencé une société en 1946 à Houston. Il a aperçu que quand on fore un puits à travers une formation de schiste, il y a presque toujours une indication de gaz là. Mais c'est impossible de faire l'extraction de gaz parce que le schiste a une perméabilité si petit. Et il a l'idée que peut-être il y a une méthode, une technique pour faire l'extraction de cette gaz. Et il a pris un grand nombre d'années, plus de 30 puits, millions et millions de dollars, pour développer les technologies existantes pour fracturer la roche, pour extraire le gaz des schistes.
Contre vents et marées, même, les gens lui disaient que c'était impossible d'aller extraire le gaz naturel du schiste, hein?
Oui, il a des ingénieurs qui a dit fréquemment que c'est assez impossible de faire. Mais finalement, c'est couronné de succès. Maintenant, il a plus de 90 ans et actif. Et dans 2002, je crois, il a vendu sa compagnie pour plus de 3 billions de dollars. Donc,
3 milliards et demi de dollars.
Exactement. C'est incroyable. Donc, la compagnie qui a acheté, la compagnie de George Mitchell, qui s'appelle Devon Energy, a continué d'améliorer la technique. Et donc, maintenant, on a des techniques qui sont très, très bonnes. Et est assez bon au point de vue d'environnement aussi, en comparaison avec les expériences initiales.
C'était donc le pétrophysicien, c'est comme ça qu'on dit, Paul Glover de l'Université Laval à Québec. Mais bon, maintenant, Yannick, dans le détail, là, comment on fait, quelles sont les différentes étapes là, pour arriver à extraire le fameux gaz?
Tout d'abord, on fore verticalement entre 1 et 2 km sous terre, puis horizontalement pour un autre kilomètre. On hydrofracture, donc on injecte de l'eau pressurisée et on recueille le gaz qui s'écoule. Évidemment, ça semble tout simple, mais c'est un procédé qui est assez complexe. Pour mieux conceptualiser, vous aider à le faire. Je suis allé sur le terrain, notamment en Montérégie avec des géologues de la compagnie Gastem. La compagnie québécoise, il faut le dire, explore le potentiel, explore, j'insiste, de certains puits en co-entreprise avec l'ontarienne Cambrian. Donc, on est allé sur un site où le forage est terminé. La prochaine étape, ça va être justement l'hydrofracturation du schiste. J'étais accompagné par l'un des géologues de Gastem, Stéphane Séjourné, qui nous explique comment ça se passe.
Le schiste lui-même n'est pas perméable, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun moyen de sortir, d'extraire le méthane de chacune de ces bulles de porosité. Ce qu'il faut, c'est créer une perméabilité artificielle. On y parvient en fracturant la roche, en créant des fractures artificielles. C'est la méthode de la fracturation hydraulique. Hydraulique parce qu'on utilise un fluide. En l'occurrence, maintenant, c'est essentiellement de l'eau. Et il s'agit de rentrer cette eau avec une pression importante, donc des vérins hydrauliques, des pompes, des camions-pompes en surface, pour dépasser le seuil de résistance de la roche, pour la faire craquer littéralement, développer des fractures qui vont se connecter entre elles et créer un réseau de perméabilité qui va connecter tous les pores et le gaz naturel. Et à ce moment-là seulement, le gaz peut être évacué le long des fractures jusqu'à l'intérieur du puits et en surface ensuite.
Ces ressources-là, il faut y accéder pour commencer, donc j'imagine on creuse.
On creuse, on fait un forage dans un premier temps vertical, parce qu'il s'agit de forage d'exploration, pour savoir s'il y a ou non une ressource en place, dans quelle quantité, est-ce qu'elle est exploitable, un puits test. Si c'est concluant, on passe à la deuxième étape qui consiste à faire des forages horizontaux, qui permet d'accéder à davantage de roches en sous-sol, donc de fracturer un plus grand volume de roches, de récupérer un plus grand volume de gaz, en minimisant l'impact en surface, parce qu'on a toujours besoin d'un seul et même puits en surface.
Parlez-moi de la technique de fracturation. Comment on fait pour fracturer cette roche-là? Parce que dans le détail, on sait que vous avez parlé de l'eau.
Parce que l'eau est sans doute le meilleur support qu'on a pour véhiculer le sable qui est destiné à boucher les... à remplir les fractures qu'on veut générer. Ce sable est très important. Dans le fond, peu importe la nature du fluide qu'on utilise pour transporter le sable, la clé, c'est les grains de sable qu'on injecte pendant la fracturation. Parce qu'une fois qu'on a fini la fracturation, l'eau va refluer, remonter en surface, et les fractures pourraient se refermer naturellement. La présence des grains de sable, et c'est ça la révolution finalement dans l'exploration l'exploitation des schistes gazéifères, ces grains de sable vont rester présents dans les fractures et les empêcher de se refermer. Et donc laisser un passage ouvert pour le gaz naturel.
Il y a du sable, il y a de l'eau, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Les autres produits qu'on utilise sont, on disait 95% c'était de l'eau, 5% c'est du sable, et moins de 1% en fait c'est ces autres produits-là en question. Ils sont importants, pas nécessairement pour la fracturation elle-même, mais pour s'assurer qu'on a un bon retour de l'eau après, pour s'assurer qu'on injecte l'eau et les grains de sable dans le coffrage et dans les fractures sans générer de corrosion le long du coffrage en acier. Donc on utilise des produits qui vont réduire la force de tension superficielle de l'eau, comme un savon. On utilise des produits qui vont permettre au sable de s'injecter facilement et qui vont fluidifier encore l'eau. L'eau, on disait par rapport au gel qu'on utilisait autrefois, c'est très fluide, mais on peut la fluidifier davantage en utilisant des polymères. Une autre catégorie de produits qu'on utilise, c'est de l'acide chlorhydrique, qui est destiné à nettoyer les petites perforations qu'on a créées dans le coffrage avant de faire rentrer l'eau dedans, et nettoyer le contact entre le coffrage en acier et la formation rocheuse. Cet acide chlorhydrique est entièrement consumé dans sa réaction avec les carbonates qui sont présents naturellement dans le schiste, dans le shale de lutica. On utilise aussi des désinfectants pour éliminer toute trace de pollution organique qui pourrait être présente en surface dans l'eau qu'on va injecter dans le puits. Chaque compagnie est réticente à diffuser la liste des produits qu'elles utilisent. C'est pas dans l'intention de ne pas informer la communauté, c'est dans l'intention de ne pas favoriser la concurrence en fait. Donc pour cette raison-là, on est limité, on ne peut pas affirmer que tel ou tel produit est présent ou non dans les autres fracturations.
Du benzène, est-ce que c'est utilisé ici?
Le benzène, c'est quelque chose qui était utilisé autrefois. On tend à s'en débarrasser le plus possible. C'était essentiellement utilisé dans les forages peu profonds pour le gaz de houille, donc les lits de charbon.
Quelle quantité d'eau et de produits chimiques qui est injectée est effectivement récupérée?
On peut compter une valeur conservative de 35%, qui peut monter à 50% de l'eau injectée, qui va effectivement remonter en surface, qui va être récupérée dans des bassins de rétention ou dans des citernes, qui va être ensuite soit réutilisée dans un nouveau puits, dans une nouvelle fracturation, soit traitée et envoyée remise finalement à l'aqueduc via une station d'épuration. Nous, on fait des analyses chimiques pour connaître la teneur. La station d'épuration fait ses analyses aussi. Tout ceci est décontaminé si nécessaire avant d'être réinjecté.
Est-ce que c'est effectivement traitable?
À date, au Québec, nous n'avons eu aucun problème pour disposer de cette eau de fracturation.
Parce que vous savez aussi qu'aux États-Unis, dans certains cas, elle n'est pas traitable et elle est confinée dans des bassins de rétention.
C'est fort possible, dépendamment des produits chimiques qu'ils ont employés. Ce qui est certain, c'est que plus on utilise des produits chimiques difficiles à ôter de l'eau, plus l'eau de fracturation est difficile à décontaminer, plus ça coûte cher à la compagnie. Donc tout le monde s'en va naturellement vers des produits les plus bénins possibles.
Hey man, nothing but love. Get out of here. Stay out of my way.
Quand on évoque la fracturation, on sait que c'est une augmentation de pression, vous injectez du sable, mais dans quelle direction s'en vont les fractures, effectivement, quel diamètre elles peuvent avoir, jusqu'où s'étendent-elles? Ça ressemble à quoi?
Quand on fait une fracturation sur un puits horizontal, initialement, les fractures vont se développer dans un plan tout autour du puits, un peu vers le bas, sur les côtés et en haut. Très rapidement, les fractures qui se développent vers le bas vont s'atténuer, cesser d'être actives, et l'essentiel de la fracturation va se propager vers le haut. Avec les fluides qu'on emploie, avec toute l'énergie qu'on développe en surface, avec les camions-pompes pour injecter l'eau, qui est une énergie assez énorme, on n'est pas capable de propager les fractures sur plus qu'une centaine de mètres de hauteur. Avec les moyens humains, c'est littéralement impossible à cette profondeur-là de propager les fractures à plus que, pour donner un ordre de grandeur, à plus que 100 mètres.
Donc ça remonte quand même 100 mètres en hauteur, une fracture.
Oui, et c'est l'objectif. En forant le puits horizontal, on s'arrange pour le placer le plus bas possible à l'intérieur de la couche qu'on veut fracturer, à l'intérieur du chêne. Et on s'attend à ce que les fractures remontent vers le haut. Si on a par exemple une couche qui fait 100 mètres d'épais, on va forer juste à la base de la couche et essayer de fracturer les 100 mètres de cette couche-là. En pratique, on arrive rarement à atteindre les 100 mètres parce que chaque schiste est constitué de différentes couches qui ont des propriétés mécaniques différentes. Donc on va rapidement arriver à une barrière à l'intérieur du schiste et on ne sera pas capable de propager les fractures au-delà de cette barrière. Il faut faire un deuxième puits au-dessus de ça pour accéder à la ressource au-dessus de cette couche-là.
Comment vous savez la hauteur que vous réussissez à obtenir avec les fractures?
Le meilleur moyen de le savoir, c'est par le biais d'une méthode géophysique qu'on appelle la sismique, mais en l'occurrence la micro-sismique. C'est-à-dire qu'on travaille avec deux puits côte à côte, un puits horizontal dans lequel on fait la fracturation et un puits vertical dans lequel on descend des géophones, qui sont des récepteurs qui vont enregistrer l'onde, le son, généré par chaque fracture à mesure qu'elle s'ouvre. Comme un tremblement de terre à grande échelle, mais en l'occurrence on parle de micro-sismique, parce que les ondes ne sont pas ressenties en surface quand on fait la fracturation. Par contre, le géophone qui est descendu dans le puits latéral à la même profondeur et peut-être à 50-100 mètres de distance va enregistrer ces micro-séismes et en laboratoire on peut ensuite traiter le signal et arriver à savoir avec une bonne précision où dans l'espace, en trois dimensions, les fractures se sont propagées et même en quatre dimensions, dans quel ordre elles se sont propagées et dans quelle direction. Et c'est le meilleur outil qu'on a pour savoir à quelle hauteur les fractures se propagent, jusqu'où elles se propagent, est-ce qu'elles dépassent la zone prescrite ou est-ce qu'elles ne l'atteignent pas.
Et leur diamètre à peu près?
L'ouverture de l'espacement à l'intérieur d'une fissure, ça peut être un millimètre, ça peut être un centimètre. Généralement, c'est plus espacé proche du puits et ça devient de plus en plus étroit, comme un système capillaire, à mesure qu'on s'éloigne de la zone de fracturation.
Et combien de fracturations on fait justement quand on est rendu à l'horizontale, qu'on a remonté, quand on a parcouru 1000 mètres à l'horizontale et qu'on décide de faire les fracturations, on va le faire combien de fois?
On peut le faire avec la technologie actuelle et les longueurs de section horizontale qu'on arrive à obtenir pour le moment, jusqu'à 10 étapes de fracturation. En pratique, au Québec, on se restreint entre 4 et 8 pour l'instant, parce qu'on est dans une phase exploratoire.
Alors, c'était le géologue Stéphane Séjourné, qui se veut plutôt rassurant, hein, Yannick, mais nos collègues de Découverte, quand même, étaient revenus de Pennsylvanie avec des images assez inquiétantes. Les exploitants de gaz de schiste avaient contaminé la nappe phréatique, tellement que certains résidents pouvait mettre le feu à l'eau du robinet, ça veut dire fumez pas en faisant la vaisselle. Hein. Est-ce que c'est un scénario qui pourrait se reproduire ici?
C'est très improbable, selon Stéphane Séjourné et Paul Glover, qu'on a entendu en début de reportage. Si on commence avec le puits horizontal, il est situé très loin, en dessous d'une autre couche de schiste qui, elle, n'est pas exploitable, et elle agit comme isolant de la nappe phréatique. Et si on va du côté du puits vertical, là, les possibilités sont peut-être un peu plus grandes parce qu'il traverse la nappe phréatique. Mais les risques sont considérablement réduits si on met en place un bon coffrage, autrement dit, les tuyaux ou conduits du puits. Et s'ils ont été mal conçus ou mis en place, c'est là que ça peut devenir périlleux. Et c'est ce qui se serait passé à Demock, comme j'en ai parlé avec Stéphane Séjourné.
On va installer l'un dans l'autre trois coffrages en acier. Chacun est cimenté à la roche. Une première étape, quand on commence le forage, c'est d'implanter un coffrage en acier à 200-300 mètres de profondeur. Il y a des règlements du ministère qui imposent d'avoir au minimum 10% de la profondeur du puits. Mais en pratique, il faut que ce soit systématiquement en dessous, bien en dessous de l'aquifère. On va, une fois qu'on a foré, descendre un coffrage en acier qui est supposé résister aux pressions à cette profondeur. Et on va le cimenter en injectant un ciment particulier. Il ne s'agit pas du ciment qu'on peut faire nous-mêmes chez nous. C'est un ciment qui doit résister aux pressions et aux températures qui existent à cette profondeur-là. On va faire remonter le ciment à l'extérieur du coffrage en acier, le long de la paroi rocheuse. Et on va le laisser prendre pendant 12 heures. Pendant ce temps-là, on ne reste pas inactif, on installe un dispositif anti-éruption en surface. Et une fois que le ciment a pris après 12 heures, je reviens à mon coffrage et à mon ciment, et qu'on a installé le dispositif anti-éruption soudé sur le coffrage, qui lui-même est cimenté, attaché à la roche sur 200 ou 300 mètres, on fait un test de pression pour s'assurer que le ciment, le coffrage et le dispositif anti-éruption résistent aux pressions. Et on va recommencer ça trois fois à mesure qu'on descend. Le deuxième coffrage s'appelle un coffrage intermédiaire, évidemment, qu'on va installer à 800, 1000, 1500 mètres de profondeur. On va le cimenter à nouveau, faire un nouveau test de pression, et on va forer à nouveau une dernière fois pour arriver au fond du puits vertical ou au fond du puits horizontal, qu'on va coffrer également, cimenter.
Vous avez vu les images qui nous sont parvenues de la Pennsylvanie et les contaminations qui ont eu lieu de la nappe phréatique là-bas. C'est difficile de passer outre à cette question-là. Comment peut-on avoir justement la certitude que ça n'arrivera pas ici?
La première piste, c'est effectivement de se demander pourquoi c'est arrivé là-bas. Dans toutes les données publiques auxquelles nous avons accès, pointent vers le fait que l'essentiel des contaminations des nappes phréatiques à proximité de forages et de sites de fracturation pour les schistes gazéifères est causé par une mauvaise cimentation du coffrage, voire même une absence de cimentation du coffrage. La raison pour laquelle ces travaux sont faits de façon sécuritaire au Québec, c'est qu'on est encadré par les lois du ministère des Ressources naturelles qui imposent de cimenter le coffrage selon des normes spécifiques et qui impose effectivement de contrôler le résultat du coffrage, de la cimentation du coffrage. Donc il ne s'agit pas juste de le cimenter, il s'agit de s'assurer que la cimentation est effective. Si le travail est bien fait selon les règles de l'art, normalement les trois coffrages emboîtés l'un dans l'autre sont tous cimentés. Il reste une seule inconnue, est-ce que les fractures vont se propager jusqu'en surface? Et encore une fois, à 2000 mètres de profondeur, c'est quasiment improbable.
C'était donc Stéphane Séjourné, le géologue que vous avez rencontré sur le terrain. Jeannick, est-ce que ça veut dire que cette exploitation, vous en revenez avec l'idée que l'exploitation des gaz de schiste est à peu près sans risque?
Non, parce que le pétrophysicien Paul Glover, que vous entendiez, a travaillé, lui, longtemps en entreprise. Il pense que Québec devrait légiférer plus explicitement, justement, sur les coffrages. Et il pense aussi que certains additifs, autrefois utilisés pour l'hydrofracturation, on pense au diesel, devraient être interdits. Ceci étant dit, on se reparlera, Yannick, peut-être de technique dans quelques années, parce que les nouvelles techniques en développement recourent au propane.
Ah oui?
Et il se pourrait bien que l'on extrait à l'avenir du gaz avec du gaz.
Vraiment, on n'arrête pas le progrès, comme on dit. La semaine prochaine, donc, troisième volet de notre série de l'eau dans le gaz, Chantal Srivastava examinera les effets sur l'environnement de l'exploitation des gaz de schiste.